Bonjour mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Pourquoi nous autres, en tant que chrétiens, nous prions que ton règne vienne? Que signifie lorsque nous disons à Dieu que ton règne vienne? Dieu est une famille. Dieu a-t-il un règne? Dieu a-t-il vraiment un royaume? Si c'est le cas, pourquoi la plupart des chrétiens sont confus à ce sujet? Nous autres, en tant que membres de l'Église de Dieu, nous prions chaque jour que ton règne vienne. Mais qu'entendons-nous? C'est quoi le royaume de Dieu? À l'époque du Christ, lorsque le Christ prêchait, il a dit devant les pharisiens, Luc 17, je pense, verset 11, il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Certaines traductions françaises ou anglaises même disent, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Réfléchissez, je vous prie. Comment le royaume de Dieu peut-il être au-dedans des êtres humains? Et surtout des êtres humains qui étaient charnels, des êtres humains qui étaient hypocrites comme les pharisiens. Alors comment le Christ pourrait-il leur dire, le royaume de Dieu est au-dedans de vous? Bon, il n'a pas dit au-dedans de vous d'après le texte grec, il a dit au milieu de vous. Mais que signifie, où était le royaume de Dieu? Comment le Christ peut dire aux gens, le royaume de Dieu est-il au milieu de vous? Il était seul. Comment peut-il être un royaume? Tout ça, voyez-vous, ça devenait clair lorsque vous comprenez ce que c'est que le royaume de Dieu. Dieu le Père, le Fils, les deux ensemble pour le moment sont la famille de Dieu. Ils constituent le royaume de Dieu. Dieu a pour but d'agrandir sa famille, afin que nous puissions un jour être dans ce royaume de Dieu, faire partie de ce royaume de Dieu et vraiment être enfant de Dieu. Mais c'est là le but de la vie. La plupart des gens aujourd'hui naissent et meurent sans jamais savoir ce qu'est le but de la vie. La plupart des gens aujourd'hui naissent et meurent sans savoir ce qu'est Dieu, ou qui est Dieu, ou qui est le Christ, ou ce qu'est le royaume. Et pourtant, chaque fois qu'il y a des difficultés qu'ils ont dans leur vie, ils prient, « Oh Dieu, viens à mon secours. Oh Dieu, aide-moi. » Comment Dieu peut-il venir à leur aide si eux-mêmes ne savent pas qui est Dieu, qui est le Christ, qu'est-ce que le royaume, la raison pour laquelle nous sommes nés? Aujourd'hui, nous sommes en bonne santé, demain, nous sommes malades, nous mourrons. Alors, c'est ça le but de la vie? Non. La vie a un but. Un but suprême. Et ce but fait partie justement de ce sujet d'aujourd'hui, le royaume de Dieu. Dieu a en vue de créer en nous des êtres spirituels, des enfants, ses enfants. Et ce sera là une partie de ce que nous appelons aujourd'hui le royaume de Dieu à venir. Voyez-vous, lorsque Dieu a créé le premier couple, il avait un but en vue que ce couple puisse être un jour une partie de sa famille, spirituellement parlant. La création d'Adam et d'Ève n'était pas spirituelle. Malgré tout ce que les gens pensent, malgré tout ce que les gens disent, malgré toutes ces croyances païennes, je dirais, l'homme n'a pas une âme immortelle, pas du tout. Nous sommes nés physiques, nous sommes nés mortels, nous mourrons physiques et nous mourrons mortels. Ça, c'est absolument vrai. Mais Dieu a en vue, en fait, qu'un jour, nous puissions être des enfants spirituels, des êtres spirituels. C'est ça le but de la vie. Donc, lorsque nous disons que ton règne vienne, nous exprimons en quelque sorte notre désir d'être dans ce royaume, dans cette famille divine. Comprenez-vous à comprendre. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, nous, en tant que membres de l'Église, nous savons ces choses. Mais nous oublions, nous nous laissons emporter par des idées extérieures, par des enseignements païens. Nous nous laissons emporter par des doutes. Une chose est certaine, si le règne de Dieu ne venait pas, vous et moi, nous ne serions pas ici longtemps sur cette terre. Ce monde est dans un état catastrophique. Ce monde est sur le chemin de mourir. Mais Dieu ne veut pas et ne va pas permettre que ce monde meure. Donc, lorsque vous dites que ton règne vienne, où vous exprimez de tout votre cœur, de toutes vos forces, ce désir que Dieu vienne sauver ce monde de lui-même, sauver l'humanité d'elle-même. L'humanité a besoin d'être sauvée, eh oui, d'elle-même. Car l'humanité est en train de se suicider. J'ai pas besoin d'explorer sur ce sujet. Vous connaissez mieux que moi. Regardez autour de vous. Regardez cette saleté, cette pollution, cette corruption. Regardez ces guerres. Regardez ces souffrances. Regardez ces maladies. Chaque jour, chaque matin, qu'entendez-vous en tant que nouvelle? Chaque jour, que voyez-vous autour de vous? Pensez à tout cela. Donc, lorsque vous dites que ton règne vienne, vous demandez quelque chose. Vous demandez un changement total, un changement radical de ce que vous voyez, de cet état de choses dans lequel vous vous trouvez. Je reviens à Adam et Ève. Adam et Ève étaient créés en tant qu'être physique. Ils sont morts en tant qu'être physique. Depuis lors, Dieu a en vue, afin que nous, nous puissions tous être un jour créés en tant qu'êtres spirituels. La création divine a deux phases. Depuis Adam et Ève, cette création a deux phases distinctes. Voyez-vous, d'abord la phase physique, chair et sang, et nous mourrons. Je suis poussière, je ne suis rien. Ce corps que j'ai, ce n'est rien. Votre corps n'est rien. C'est une poussière. La Bible dit que c'est comme l'herbe du matin. Et que ça disparaît le lendemain. Mais la création réelle sera après que cette création physique disparaisse et que nous devenions des êtres spirituels. Cette transformation est, en effet, une partie importante du royaume de Dieu. C'est ça, lorsque vous dites que ton règne vienne, vous voulez cette transformation, vous voulez faire partie de cette transformation, vous pouvez être du groupe de ceux qui préparent le royaume de Dieu. La Bible est réelle, mes frères et mes sœurs. La Bible entend ce qu'elle dit. Lorsque David parle des Israélites, la Bible ne parle pas des Juifs seulement. Ça, vous le savez. Les Israélites sont un groupe de 12 familles, si vous voulez dire, entendre ainsi. Mais entre les 12, il y a une tribu qui s'appelait et qui s'appelle encore Judas, dont les descendants sont des Israélites. Mais le reste des descendants, des fils de Jacob, ne sont pas des Juifs. Une fois que vous comprenez ceci, vous comprenez que lorsque la Bible s'adresse aux Israélites, elle ne s'adresse pas uniquement aux Juifs, pas du tout. Une fois que vous avez ça en tête, et nous, en tant que membres de l'Église, nous l'avons, mais nous ne pensons pas toujours ainsi. Une fois que nous avons ceci en tête, alors tâchons de comprendre ce que la Bible entend lorsqu'elle parle des Israélites. Alors revenons à ces Israélites. De même que le premier couple a péché et se privait des avantages qu'il aurait pu avoir, de même les Israélites, j'entends maintenant de toute cette tribu, était en esclavage en Égypte. De même que nous sommes aujourd'hui en esclavage dans ce monde où nous vivons est encore dominé par Satan le diable. C'est ce que dit la Bible. Regardez 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Donc, nous sommes prisonniers en quelque sorte sur l'esclavage de Satan. Dieu le sait, Dieu le permet. Satan ne peut absolument rien faire sans la permission divine. Donc, nous sommes des esclaves dans un monde où Dieu a permis ce genre de choses, mais Dieu nous donne toute la force pour que nous puissions vaincre les astuces de Satan. Lorsque vous dites que ton règne vienne, vous approuvez, vous admettez, vous acceptez la volonté de Dieu, et ensuite, vous vous soumettez à cette volonté. C'est ainsi que lorsque vous dites que ton règne vienne, vous vous mettez devant Dieu à genoux. C'est ainsi que vous acceptez son autorité et vous vous soumettez à lui. Voilà la différence. Le monde aujourd'hui veut avoir les bénéfices de Dieu, les avantages que Dieu nous donne. toute la bénédiction, mais sans se soumettre à Dieu. Vous ne pouvez pas dire à Dieu que ton règne vienne si vous n'êtes pas prêt à vous soumettre à lui. Un point, c'est tout. Voilà où nous en sommes. Voilà pourquoi ce monde chrétien, d'une façon générale, est en pleine confusion. Les gens ne savent pas de quel côté se tourner. Il y a tellement de religions chrétiennes, entre guillemets, tellement de prédictions et de prédications. Une chose est certaine, si vous voulez la vérité, tournez-vous vers la Bible. Dieu a dit, lorsque les anciens Israélites ont demandé l'aide de Dieu, la liberté d'une captivité en Égypte, Dieu est allé à leur secours. Autrement dit, Dieu a sorti les Israélites de l'esclavage. De même, aujourd'hui, Dieu, lorsque nous nous tournons vers lui, nous aide à sortir de l'esclavage que vous connaissez autour de vous. Vous êtes esclaves, mes frères et mes sœurs, de ce monde, de cette tentation, de ces saletés, de cette corruption, à moins que vous en sortiez par l'aide de Dieu, à moins que chaque jour vous viviez d'après la volonté divine et non pas d'après vos sentiments humains. Nous sommes tous sujets à nos sentiments humains, à nos caprices, à nos convoitises, à nos stupidités, pour ainsi dire. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons en sortir. Donc, l'esclavage d'Israël en Égypte est comme l'esclavage aujourd'hui dans ce monde de Satan. Eux, les Israélites, ont demandé à Dieu de les faire sortir. Dieu a eu miséricorde. Lisez Exode. Dieu a eu pitié d'eux. Dieu les a fait sortir d'Égypte par des dizaines de miracles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont oublié Dieu. Ils se sont détournés de Dieu. Ils sont retournés en arrière et non pas en avant. Ils sont retournés en quelque sorte en Égypte. Voilà. Et c'est le cas en ce qui vous concerne, vous, moi. Car nous sommes dans une Égypte païenne, moderne. Et nous crions aussi, lorsque nous disons que ton règne vienne, Dieu vienne, fait quelque chose. Et Dieu nous délivre. Est-ce que nous en sortons nous-mêmes, vraiment? Sommes-nous sortis de l'Égypte moderne? Ou vivons-nous toujours dans l'Égypte moderne? Certes, physiquement, nous y vivons, mais dans nos pensées, dans nos actes, dans nos réflexions, dans notre comportement, sommes-nous sortis d'Égypte moderne? Lorsque vous dites que ton règne vienne, voyez-vous, c'est ce que vous entendez. Je répète, regardez par exemple Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Je parle maintenant des Égyptiens qui étaient, des Israélites qui étaient prisonniers, pour ainsi dire, à l'Égypte. Nous lisons, longtemps après, Exode 2, 23 à 25, longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude, quoi, montèrent jusqu'à Dieu. Voilà, voyez-vous, ayez ça en tête. Lorsque vous dites que ton règne vienne, vos cris monteront jusqu'à Dieu. Dieu entendra, Dieu écoutera, Dieu est là pour vous aider. Mais il faut que vous remplissiez les conditions. Regardez ce qui s'est passé. Verset 24, Exode 2. Dieu entendit leur gémissement. C'est pas marqué leur prière, c'est marqué leur gémissement. Autrement dit, ça vient du cœur. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être sauvés. Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Voilà les pères des Israélites. Dieu se souvient, car Dieu avait dit à Abraham, je bénirai tes descendants. Et cette bénédiction est passée aux descendants d'Abraham, Abraham, Isaac, Jacob et les Israélites. Donc, Dieu se souvient de quelque chose. Dieu n'oublie jamais rien. Mais lorsque Dieu se souvient d'une alliance, alors, il faut bien que vous vous rendiez compte qu'une alliance ne vaut pas grand-chose en que les deux parties tiennent leur promesse. Une alliance ne peut pas être entre une seule personne. Une alliance doit être entre deux parties. Voilà pourquoi, je répète, lorsque Dieu dit, il se souvient de son alliance avec Abraham, il faut voir quelle était cette alliance. Cette alliance était que si les enfants d'Israël obéissaient à Dieu, s'ils respectaient les commandements de Dieu, s'ils vivaient d'après la volonté de Dieu, Dieu les bénirait. Dieu leur donnerait toutes les bénédictions désirées. En est-il ainsi? Hélas, non. Mais continuons ici. Verset 25. Dieu regarda les enfants d'Israël, il en eut compassion. Mes frères et mes sœurs, lorsque vous lisez la Bible, chaque fois que vous avez le mot compassion, il y a automatiquement une action. Je ne peux pas avoir compassion de quelqu'un à moins que je fasse quelque chose. De même, Dieu, lorsqu'il a compassion, il fait quelque chose. Il a, voyez-vous ici, fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. De même avec nous, lorsque nous disons que ton règne vienne, Dieu nous appelle hors de ce monde physique, et nous offre des promesses spirituelles fantastiques. Ces promesses sont réelles. Dieu veut que nous soyons un jour membres de sa famille divine. C'est une partie du plan divin de la terre. C'est ce que nous avons fait lorsque nous avons célébré la fête des tabernacles. La fête des tabernacles nous montre comment un jour, l'Église, le monde, nous tous, nous serons dans un monde différent, dans un pays différent, sous une civilisation différente. Je répète, de même que Dieu a appelé les Israélites d'Égypte, de même qu'il nous appelle aujourd'hui de ce monde satanique. Dieu a permis à Satan de séduire ce monde, oui, parce que Dieu veut que nous puissions passer par des épreuves. Les épreuves nous rapprochent de Dieu. Les épreuves nous aident à mieux comprendre Dieu. Les épreuves nous mettent à vaincre nos sentiments charnels. Alors, de même que Dieu a eu pitié d'Adam et d'Ève, de même que Dieu a eu pitié des Israélites, de même Dieu a pitié aujourd'hui de nous tous lorsque nous disons que ton règne vienne. Revenons maintenant au Nouveau Testament. L'apôtre Jean est celui qui était proche du Christ. L'apôtre Jean a souvent parlé du Christ, de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu. Du reste, ses épîtres à Jean sont pleines d'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas ce que l'amour que vous entendez autour de vous, pas du tout. L'amour de Dieu, c'est une union avec Dieu par votre obéissance à lui, par votre soumission à sa volonté et par votre comportement selon d'une façon que ça lui plaise. C'est ça l'amour de Dieu. Et Dieu vous appelle lorsque vous êtes disposé à avoir cette attitude. Notez-le. Jean chapitre 6. Nouveau Testament. Jean chapitre 6. Il y a une vérité fantastique. Voyez-vous, regardez autour de vous. Il y a tellement de chrétiens, tout le monde pense, ou plus ou moins, être appelé aujourd'hui. Chacun pense être dans la bonne église. Je ne l'ai jamais vu. Je pense de même que vous. Quelqu'un qui dirait, non, je ne suis pas dans la bonne église, mais j'y reste. C'est ridicule. Donc, tout le monde, en soi-même, est dans la bonne église. Mais regardez voir ce que Dieu dit. Dieu dit, Jean 6, verset 44 à 47, « Nul ne peut venir à moi si, c'est le Christ qui parle, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Regardez voir. Il y a déjà dans ce verset, voyez-vous, mes amis, je vais aujourd'hui lire la Bible verset par verset. Je vais expliquer ces versets, non pas seulement lire. Regardez voir, ici vous avez déjà toute une vérité. Vous ne pouvez pas aller à Dieu le Père, au Christ, à moins que Dieu ne vous l'attire. Et dit-il, le Christ dit, je le ressusciterai. Mais c'est quoi ressusciter? Beaucoup de chrétiens ne pensent pas qu'il y a une doctrine de résurrection. Et pourtant, le fait est que, voyez-vous, nous ne sommes pas des êtres immortels. Lorsque nous mourrons un point surtout, à moins que Dieu nous ressuscite. La résurrection des morts, c'est une absolue réalité. Voilà. Déjà, l'une des preuves. La Bible est pleine. La Bible ne se contredit pas. Tout au long de la Bible, vous verrez cette vérité que lorsque vous vous soumettez à Dieu, vous ferez partie de ce groupe de gens que Dieu appelle, que Dieu attire, ensuite qui va le ressusciter au dernier jour. Regardez-moi ce mot. Au dernier jour. Donc, il y a un dernier jour. Donc, le monde va venir à sa fin. Donc, il y aura, comme la Bible dit, des gens des jours de détresse, et à moins que Dieu n'intervienne, le monde ne pourrait pas subsister. Voilà la vérité. Voyez-vous, déjà dans un seul verset, vous avez des vérités fantastiques qui sortent. Je continue. Verset 45, Jean 6, il est écrit dans les prophètes, c'est-à-dire la Bible, ils seront tous enseignés de Dieu. Tiens, sommes-nous enseignés de Dieu d'une façon générale, les chrétiens? Est-ce que les chrétiens observent exactement ce que Dieu dit? Que fait-on des 10 commandements? Que fait-on des anciens, mettons, enseignements dans l'Ancien Testament? Oh, ça c'est l'Ancien Testament, c'est plus valable. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que Dieu a fait et donné des commandements, et ces commandements sont tous valables aujourd'hui. Parlons-en. Donc, ainsi dit-il, nous serons enseignés de Dieu, verset 45, Jean 6, ainsi quiconque a entendu le Père, a reçu son enseignement, vient à moi. C'est le Christ qui parle. Donc, si vous venez vraiment à Dieu le Père, si vous dites que ton règne vienne, vous devez passer par le Christ, et le Christ, c'est lui qui a donné les commandements de l'Ancien Testament. C'est lui qui a donné les commandements du Nouveau Testament. C'est lui qui a dit, soumettez-vous à Dieu, que ta volonté soit faite. C'est lui qui nous a enseigné à dire que ton règne vienne. Commencez-vous à comprendre. Voyez-vous, je tâche de faire aussi simple que possible. Ensuite, le Christ ajoute une vérité encore. Voyez-vous, chaque verset, lorsque vous le lisez ainsi, c'est une révélation. En même que vous ayez cette compréhension sincère et claire, regardez-moi cette révélation, verset 46. Nul n'a vu le Père, sinon que celui qui vient de Dieu, c'est-à-dire le Christ. Tiens. Il y a pourtant pas mal de gens aujourd'hui qui disent avoir vu le Père, qui disent avoir rencontré Dieu quelque part. Donc, ce sont des mensonges. Personne n'a vu le Père, dit le Christ, sauf le Christ. Y croyez-vous? Oui. Voilà. Déjà, une vérité en soi-même qui nous surprend. Ensuite, continuons, parce que c'est pas là mon sujet. Comme j'ai dit, je vous ai promis et je le ferai dans ce sermon. À chaque verset où il y a une vérité nouvelle, je m'arrêterai pour l'expliquer. Au verset suivant, à 47. En vérité, dit-il, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Voilà. Voilà une phrase difficile à comprendre. Voilà une révélation qu'on peut prendre, qu'on peut détourner, qu'on peut, l'interpréter à toute façon possible. Que signifie celui qui croit en moi a la vie éternelle? Voyez-vous, est-ce vraiment, écoutez, mes frères et mes sœurs, soyons francs. Si le fait de croire en Dieu vous permet d'avoir la vie éternelle, presque tout le monde croit en Dieu, mais à sa façon. Presque tout le monde pense à avoir la vie éternelle parce que ils ont vu ce verset. Eh bien, je crois en Dieu, je suis sauvé. Regardez autour de vous, combien de chrétiens aujourd'hui prêchent ou pensent être déjà sauvés une fois pour toutes. Oh, je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. Mais que signifie, là encore, prenez votre temps, que signifie croire en Dieu? Voilà. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. C'est comme ça qu'il faut être chrétien. C'est comme ça qu'il faut avancer dans la vérité. Croire en Dieu ne signifie rien à des Christes, à moins que vous fassiez la volonté de Dieu. Voilà. Un point, c'est tout. Je peux vous en citer des centaines de versets où Christ a dit, où la Bible dit, si vous croyez en Dieu, vous faites sa volonté. Automatiquement, ce verset n'a pas de sens, n'a aucune signification, à moins que vous disiez, ceux qui croient en moi fait la volonté de Dieu et qui donc, en fin de compte, aura la vie éternelle. Voilà la signification de ce verset. Voyez-vous, je n'ai pas fait grand-chose pour le moment. Je parle du royaume de Dieu. Et pourtant, regardez tous les détours que j'ai faits pour venir toujours au même résultat, à la même vérité. La vérité ne change pas. Ancien Israël a désobéi à Dieu. Israël moderne, nous autres, nous désobéissons à Dieu. Ancien Israël est mort sans parvenir au but. Qu'en est-il de nous, de vous et de moi? Nous aussi, nous avons devant nous donc une promesse. Non pas la promesse d'un pays physique, comme celui où les Israélites sont entrés, mais la promesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi lorsque vous dites que ton règne vienne, nous disons à Dieu, écoute Dieu, nous nous rappelons ta promesse. Nous nous rappelons qu'un jour, nous entrons dans ton royaume, dans ta famille, et nous te promettons que nous nous soumettrons à toi, nous ferons ta volonté, et nous respecterons ta volonté. C'est ainsi que nous pouvons dire que nous avons, nous, cette alliance entre nous et nous, et que nous serons vraiment dans la vie. Nous aurons vraiment la vie éternelle. Nous autres, Israël moderne, spirituellement parlant, nous sommes sous la soumission divine, dans le sens que nous devons observer les commandements de Dieu, non pas seulement la lettre de la loi, mais aussi l'esprit de la loi. Car nous avons aujourd'hui la promesse divine que le Christ entrera en nous lorsque nous nous faisons baptiser, je vais vous montrer dans quelques instants, et que par ce baptême du Christ, nous pourrons nous avoir la vie du Christ en nous et avancer dans la vie spirituelle. C'est ainsi que la volonté de Dieu se fera. C'est ainsi que nous aurons la vie éternelle. C'est ainsi que nous aurons un jour cette bénédiction inouïe de dire nous sommes enfants de Dieu, réellement parlant. Regardez ce que le Christ a dit pour entrer dans le royaume de Dieu. Avant le Christ, les gens ne savaient pas ce que c'est que le royaume de Dieu. Avant l'avènement du Christ, les gens pensaient toujours que la vie commençait à leur naissance et se terminait à la mort, ça c'est tout. Le Christ est venu révéler une vérité absolue. Il est venu nous révéler d'abord le Père, nos rapports avec le Père, et le but de la vie, ce but dont je vous parle, spirituel, que nous serons un jour enfants de Dieu. Regardez le premier message que le Christ a donné dans Marc, chapitre 1, verset 14 à 15. Prenez note, ça c'est la base. Marc 1, verset 14 à 15. Après que Jean-Baptiste, eut été livré, Jésus est là dans la Galilée, ce sont les premières paroles de Christ, prêchant l'évangile de Dieu. Voilà, je m'arrête. C'est quoi l'évangile de Dieu? Pourquoi le Christ a prêché l'évangile de Dieu? L'évangile de Dieu, c'est la bonne nouvelle de son retour sur cette terre, pour que ce que je dis maintenant soit compris par tout le monde. Mais ça, c'est, laissons de côté au moins seulement ce passage. Il prêche donc cette vérité, la bonne nouvelle, du retour de Christ, il dit, verset 15, Marc 1, 15. Regardez-moi la profondeur de cet ordre. Il disait, le temps est accompli. Le temps de quoi? Mais vous, là encore, Arrêtez-vous. Dieu a fixé un temps pour que les choses soient accomplies. Donc, le but de la vie, c'est que l'homme puisse parvenir au but, à ce but-là, dans un certain laps de temps. Entre nous, soi-disant que l'homme, je parle de l'homme, pas de la création terrestre, l'homme a à sa disposition 6 000 ans pour pouvoir vraiment s'approcher de Christ avant que le Christ ne revienne. Donc, nous sommes tout près aujourd'hui de ces 6 000 ans. Mais ça, c'est en dehors de la question pour le moment. Mais regardez voir ce qui est marqué. Le Christ a dit, verset 15, « Le temps est accompli. » Donc, c'est ce que vous m'entendez souvent dire, nous sommes tout près de la fin. Le royaume de Dieu est proche. Voilà. Ma question est, qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est la famille de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. C'est aujourd'hui Dieu le Père et le Christ qui en sont les principaux, je dirais, les individualités, je dirais personnalités, si vous voulez. Mais un jour, ils auront d'autres membres dans cette famille. Donc, le royaume de Dieu est proche, dit-il, croyez-vous, et à la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est la base dont je vous parle aujourd'hui de ce sujet. Le rétablissement de ce royaume sur cette terre. Mais comment est-ce que ce changement peut-il avoir lieu? Là encore, demandez à n'importe quel chrétien. Vous direz, comment est-ce que vous devenez chrétien? Il dira, bon, je ne sais pas. Ou bien non, oh, je suis né chrétien. Ou encore, mes parents étaient chrétiens. Ou encore, eh bien, je me suis fait baptiser. Ah tiens, c'est intéressant. Et comment est-ce que vous êtes fait baptiser? La plupart du temps, les gens se sont fait baptiser lorsqu'ils étaient enfants. Des bébés même. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et c'est là le baptême. Pouvez-vous trouver dans cette Bible un endroit où Dieu vous dit, faites les choses machinalement et vous serez sauvés? Ridicule. Pour se faire baptiser, comme le Christ l'a dit, il faut faire quelque chose. Notez-le. Maintenant, changeons de sujet, revenons aux actes, livre des actes. Après la mort du Christ, les gens n'étaient pas délaissés. Les apôtres ont continué à proclamer l'évangile. Ils ont proclamé exactement comment le Christ a expliqué que le changement doit avoir lieu en chaque être humain, en vous et en moi. L'apôtre Pierre, qui était un des apôtres les plus, je dirais, courageux, après la mort du Christ et après lui-même avoir reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, a fait un discours. Un discours fantastique. Il a eu le courage de dire aux gens, écoutez, vous avez tué le Christ, vous avez tué votre Créateur lorsqu'il était sous forme humaine. Et il dit, vous, à moins que vous vous repentiez, voyez-vous, une condition à nouveau, à moins que vous vous repentiez, vous mourrez par vos péchés. Ça sera la fin. Donc, lorsqu'il a fait ce discours, que vous n'avez qu'à lire Acte 2, ça vaut la peine de lire. Regardez comment Pierre vraiment explique les événements. Et ensuite, il dit une chose. Il dit, Acte 2, chapitre verset 36, Acte 36, « Que toute la maison d'Israël sache, dit-il, avec certitude, que Dieu a fait le Seigneur et le Christ, ce Jésus, que vous avez crucifié. » Regardez-moi cette force de l'apôtre Pierre. Que vous avez crucifié. Vous savez, il faut avoir du courage de dire devant des assassins, vous êtes assassins pour ainsi dire. Donc, Pierre n'a pas eu peur parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Avec force, il a déclaré la vérité que la plupart des chrétiens ignorent aujourd'hui. Cette vérité de base dont je vous parle, regardez voir. Il a dit, vous êtes assassins, repentez-vous. Et il ne comprenait pas. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, les gens eurent, pas tous, mais quelques-uns, le cœur vivement touché, ils dirent à Pierre, et ils sont honnêtes là, et aux apôtres, hommes, Frères, que ferons-nous? Mes frères et mes sœurs, lorsque vous posez cette question, soyez sûrs de donner la suite correctement. Lorsque vous demandez à Dieu, écoute, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et si le conseil donné est juste, alors faites-le. Si vous ne faites pas ce que Dieu vous dit, à quoi bon de lui dire, que ferais-je, que dois-je faire? Voilà le problème, voilà la difficulté des gens aujourd'hui. Les gens veulent savoir quelle est la volonté de Dieu, ils ne la lisent pas, ils ne l'étudient pas, ils ne l'observent pas, ils ne s'y soumettent pas. Croyez-vous? Comprenez-vous maintenant où nous en sommes aujourd'hui? Donc, ces gens ont demandé, que ferons-nous? Quelle a été la réponse de l'apôtre Pierre? Voilà la base même de ce que je suis en train de vous dire. Verset 38, Pierre dit, repentez-vous. Je m'arrête. C'est quoi, se repentir? Voyez-vous, c'est comme ça qu'on peut comprendre. Avant d'aller plus loin, vous dites, c'est quoi se repentir? Se repentir, c'est de cesser de pécher. D'après la Bible, le péché est la transgression des lois. Donc, lorsque vous vous repentez, vous cessez de pécher. Étant humains, nous ne sommes pas tous capables de nous changer du jour au lendemain, non. Mais nous devons faire un effort, après nous être repentis, de ne pas répéter les mêmes fautes. Bon, ça c'est le repentir. Donc, vous vous repentez des péchés que vous commettez. Regardez autour de vous. Mieux encore, regardez à vous-même. Lorsque le matin vous vous levez, quelles sont vos pensées? Lorsque dans la journée vous avez des épreuves, quelles sont vos pensées, vos actes, votre comportement? Quelle est votre attitude envers les autres? Comment est-ce que vous les traitez? Quelles sont les impressions que vous avez des gens, les soupçons que vous avez des autres autour de vous? Les gens soupçonnent des choses, les gens supposent des choses, les gens se font des idées, ils se ruinent et leur vie et la vie de leurs voisins. Voyez-vous, tout ça c'est une partie du caractère humain. Changer ce caractère, changer cette façon humaine d'agir, approchez-vous de Dieu avec force et direz que ta volonté se fasse et faites-la. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit. Il vous dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors, chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, là encore, nous entrons dans d'autres détails ici. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas vous faire baptiser, à moins que vous ayez d'abord demandé pardon à Dieu de vos péchés, à moins que vous vous repentiez. Autrement dit, le baptême n'est pas pour les enfants. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on peut voir la vérité. Et pourtant, la plupart des chrétiens sont baptisés à leur tendre âge. Voilà pourquoi ils sont confus. Voilà pourquoi lorsque vous dites « je suis baptisé » ou « je crois en Dieu », vous devez être conscient des conditions du baptême qui sont croire en Dieu et se repentir de ses propres péchés. Mes frères et mes sœurs, il se fait que vous connaissiez tout ça. Le fait est jusqu'à quel point vous mettez en pratique ces choses-là. Je continue. Donc, nous devons croire en Dieu et demander pardon aux péchés. Et alors, nous recevrons le Saint-Esprit. Voyez-vous, autrement dit, l'esclavage en Égypte était de sortir, en quelque sorte, de ce monde ténébreux. L'esclavage en Égypte moderne est aussi de sortir de ce monde ténébreux par le repentir, par le baptême et par la réception du Saint-Esprit que Dieu nous a promis. Commencez-vous à comprendre. Verset 38, je répète, il dit, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Va encore, je m'arrête. Il faut que je m'arrête. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est une troisième personne du membre de la famille divine. Si tel est le cas, dans ce cas-là, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le Christ a pour Père qui? Le Christ aurait pour Père le Saint-Esprit parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Et vous? Tout d'un coup, la confusion. D'après la Bible, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ. C'est un saint, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une troisième personne. Ce n'est pas un troisième individu. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit du Christ, c'est le Saint-Esprit. Une fois que vous avez ça, vous comprenez pourquoi l'apôtre Pierre parle dans ses écrits sans parler du Saint-Esprit en tant que troisième personne de la famille divine. De même, pourquoi l'apôtre Paul, dans 14 épîtres qu'il a écrites, dans aucune d'elles, il ne dit, il le salue au nom du Saint-Esprit. Il dit, il salue au nom du Père et du Fils. Et vous? Parce que là encore, ce sont des vérités qui nous sont révélées par des simples exemples. Le Saint-Esprit, donc, n'est pas une troisième personne. Lorsque vous faites baptiser, vous ne recevez pas une troisième personne en vous. Vous recevez l'Esprit du Christ. Voyez-vous, jusqu'à maintenant, je suis encore loin de mon sujet, mais j'ai déjà couvert pas mal de choses. C'est ce que je veux faire. Je vais prendre mon temps aujourd'hui, et peut-être je vais continuer ce même thème la prochaine fois, afin que vous puissiez comprendre exactement mot à mot ce que c'est. Voyez-vous, l'Église, avant l'avènement du Christ, autrement dit, à l'époque des Israélites, était une congrégation. C'était une congrégation d'êtres physiques. C'était des gens physiques. Il n'y avait pas vraiment l'Esprit de Dieu qui les dominait. L'Esprit de Dieu les dirigeait, certes, n'était pas en eux. Ils n'avaient pas reçu cet esprit. Le Christ est venu pour quelle raison? D'après la Bible, le Christ est venu pour d'abord pour nous révéler Dieu le Père. Le Christ est venu pour payer l'amende de nos péchés par sa mort. Le Christ est venu pour que nous puissions comprendre la vérité et nous soumettre à Dieu et un jour arriver au but pour lequel nous sommes nés. Bon, mais le Christ est aussi venu pour une autre raison. Matthieu chapitre 6, verset 18. Lorsqu'il a demandé aux disciples, « Qui suis-je ?» L'apôtre Pierre a dit, « Écoute, tu es le Fils de Dieu. » Alors, le Christ a dit à l'apôtre Pierre, Matthieu 16, verset 18, « Je te dis, dit-il, que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Je m'arrête. Est-ce que le Christ dit-il à Pierre que l'Église de Christ, que l'Église est bâtie sur l'apôtre Pierre? Non. Il dit, tu es Pierre, ça c'est ton nom. Sur cette pierre, dit-il, autrement dit, c'est un Pierre différent, je bâtirai mon Église. D'après la Bible, l'Église est bâtie sur quoi? Et vous, la pierre angulaire, le rocher. Donc, ce n'est pas de l'apôtre Pierre dont on parle ici. Le Christ dit aussi que lui, le rocher, la pierre angulaire, c'est sur lui que l'Église sera bâtie. Alors pourquoi, lorsque vous lisez ce verset, vous comprendrez très, très facilement que l'Église est bâtie, non pas sur un homme, mais sur le Christ. Donc voilà pourquoi le Christ est venu ici, entre autres choses, pour établir son Église. Vous savez pas ce qui est marqué. Là encore, je vous dis, aujourd'hui peut-être exceptionnellement, je m'arrête à chaque verset pour expliquer. C'est une bonne idée peut-être, je sais. Comment cette promesse se termine? Matthieu 16, 18. Donc, je bâtirai mon église. Les portes du séjour de Méor. C'est quoi, les portes du séjour de Méor? Voyez-vous? D'accord. Autrement dit, tout ce qui est contraire, l'enfer, les démons, tout ça, les portes du séjour de Méor ne prévaudront point contre elles. Voilà ce que c'est que l'Église de Dieu. Aucune puissance ne pourrait détruire l'Église de Dieu. Aucun être humain ne pourrait changer l'Église de Dieu. Autrement dit, l'Église de Dieu, c'est la maison de Dieu, la maison spirituelle, et le Christ est venu bâtir cette Église. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, regardez autour de vous. Combien avez-vous, ces églises? Combien avez-vous des gens qui prêchent l'Église de Dieu? Combien de doctrines différentes? Voilà, voilà où ils en sont. Voilà pourquoi les églises, d'une façon générale, de ce monde chrétien, ne sont pas fondées sur le Christ. Pour être fondée sur le Christ, Dieu, sur le Christ, une église doit faire la volonté de Dieu. Pour être fondée sur le Christ, une église doit obéir aux enseignements bibliques, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Pour être fondée sur le Christ, une église doit absolument faire la volonté de Dieu et demander chaque jour que ton règne vienne et demander et faire ce que le Christ a dit, aime ton prochain comme toi-même. Tâche d'apprendre à tourner l'autre joue. Eh oui, il est facile de blâmer. Il est facile de dire la tort. Et vous? Quand est-ce que vous vous réveillez, vous direz, non, j'ai tort, je vais demander pardon. Ayez le courage de dire, j'ai tort. Si vous êtes vraiment chrétien, vous devez avoir ce comportement. D'une façon générale, les gens prétendent avoir raison. Dans combien de cas, lorsqu'il y a une dispute, si vous voulez, entre des individus, ça le reproche. Tu as tort. Au lieu de dire, écoute, je te demande pardon et vivons en tant que chrétiens. Ce faisant, voyez, vous faites la volonté de Dieu. Ce faisant, vous êtes membre de l'Église de Dieu. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc, le Christ dit que rien ne pourra donc arrêter cette Église de Dieu. Nous sommes maintenant, nous autres chrétiens, en préparation pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes membres de l'Église, membres de ce rocher dont je vous parle. Mais nous devons faire partie de ce rocher en respectant ce qui est du reste du rocher, sa volonté, ses commandements et aussi ses enseignements à tout point de vue. L'humanité aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, a perdu cette connaissance. Vous direz, l'a-t-elle jamais eu? Je ne sais pas. Peut-être, elle ne l'a jamais eu. Dieu a parlé d'un changement de cœur. Dans la Bible, souvent les gens confondent, comme je viens de dire, le terme juif et le terme israélite. Les juifs sont des israélites, certes, mais tous les israélites ne sont pas des juifs. Prenez par exemple les Français. Les Parisiens sont, d'une façon générale, français. Mais tous les Français ne sont pas parisiens. Une fois que vous comprenez cette même vérité, vous comprendrez ce que c'est que israélite et juif dans la Bible. La Bible s'adresse à tous les israélites, les juifs y compris. Les juifs d'après la Bible, maintenant j'entre dans le vif du sujet, les juifs d'après la Bible sont ceux qui sont circoncis du cœur. La circoncision, nous savons ce que c'est, quelque chose de physique, quelque chose d'humain. D'après les médecins, c'est bon, d'accord. Je ne parle pas de circoncision maintenant, physique. Si c'est bon ou non, tant mieux. Je suis sûr que c'est bon parce que Dieu a prescrit. Mais ce qui vous rend chrétien, ce n'est pas la circoncision physique. C'est la circoncision du cœur. Autrement dit, il faut que cette purification, pour ainsi dire, ait lieu dans votre esprit. Et maintenant, une fois que vous avez ceci en tête, une fois que vous comprenez que tous les juifs ne sont pas, sont juifs, tous les juifs sont israélites, mais tous les israélites ne sont pas juifs, maintenant regardez voir ce que Dieu, par la bouche du, l'apôtre Paul écrit. C'est très intéressant, voyez-vous. Je répète, je prends mon temps. Je suis encore loin de mon but. Le but est, qu'est-ce que le royaume de Dieu? J'y arrive petit à petit, pas à pas. Romains chapitre 2, verset 25. L'apôtre Paul parle de la circoncision. Des deux côtés, physique et spirituel. Il dit, la circoncision est utile. Maintenant, il parle de la circoncision physique. Donc, c'est bon, c'est utile. Si tu mets en pratique, dit-il, la loi. Mais si tu transgresses la loi, dit-il, la circoncision devient incirconcision. Il parle maintenant du point de vue physique. Ensuite, il parle, il approfondit dans sa dimension spirituelle. Si donc, dit-il, l'incirconcision observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Autrement dit, si vous avez quelque chose, vous devez le faire. C'est pas la peine de prétendre. Ne dites pas que vous êtes circoncis, entre guillemets, ou que vous êtes juif, entre guillemets, si vous ne faites pas ce que Dieu vous dit. Voilà pourquoi lorsque vous dites que ton règne vienne, vous devez comprendre sa vérité spirituelle. Vous devez comprendre que la Bible a été écrite pour que vous puissiez, vous et moi, et que nous puissions tous ensemble, nous approcher de Dieu et avoir ce privilège d'entrer un jour dans son royaume. Et alors, lorsque nous dirons que ton règne vienne, c'est exactement ce qui va s'accomplir. Le règne de Dieu viendra et nous serons nous-mêmes partie de ce règne. Verset 26, Romains 2, 26. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Oui, c'est normal. La circoncision, dit-il, de nature qui la circoncision de nature qui accomplit la loi, ne le condamnera-t-il pas? Toi qui la transgresses, autrement dit, il explique d'une façon simple que si tu es circoncis de cœur, tu dois observer la loi un peu sur tout. Autrement, tu n'es pas circoncis. Le juif, dit-il, verset 28, regardez ça. Le juif, ce n'est pas celui qui a les dehors et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. On ne parle pas de la circoncision de chair ici. On parle de la circoncision de l'esprit. Autrement dit, purifiez-vous, sortez de votre esprit ce péché, soumettez-vous à lui, à Dieu. Romains 2, 29. Le juif, dit-il, c'est celui qui est intérieurement. Voilà. J'ai pas besoin d'expliquer. Voilà ce que c'est que le juif d'après la Bible. Intérieurement. Et la circoncision, dit-il, c'est celle du cœur. Voilà. Voyez-vous, c'est simple. Mais mettez ça en pratique. Alors, lorsque vous parlez de juif ou de circoncision, ayez ce verset 29 en tête. C'est pas question de prétendre, c'est la question, voilà. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif, dit-il, ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Maintenant, je ne sais pas vraiment où m'arrêter ni comment continuer, mais je voudrais ouvrir une parenthèse ici. Je parle du royaume de Dieu. Je parle de notre demande journalière que ton règne vienne. Je parle de la conversion, je parle du Saint-Esprit, et je parle de l'Église d'une façon générale. L'Église de Dieu se forme et est formée par ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. L'Église de Dieu, autrement, ne serait pas Église de Dieu, ça serait Église tout court. Si nous sommes vraiment convertis, si nous sommes circoncis du cœur, si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes membres de l'Église de Dieu. Auparavant, je répète, c'était la congrégation d'Israël, n'avait pas, eux, l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, c'est différent. Nous avons l'Esprit de Dieu. Alors, je vous pose la question. Quand est-ce que l'Église de Dieu a commencé? Nous avons vu lorsque le Christ est venu sur cette terre. Et quand est-ce que les églises, à travers les siècles, ont progressé? Voyez-vous, l'Apocalypse que beaucoup de gens lisent, connaissent ou comprennent, mentionne cette Église de Dieu. Comment cette Église? Il n'y a pas cette Église de Dieu. Il y a cette phase, si vous voulez, de l'Église de Dieu. Et je voudrais, dans le temps qui me reste aujourd'hui, analyser ces églises. Parce qu'aujourd'hui, je répète, mes frères et mes sœurs, beaucoup d'églises chrétiennes ne sont pas des églises de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'églises chrétiennes se nomment chrétiennes, mais ne font pas ce que Dieu dit. Regardez voir les sept phases. Apocalypse 2, Apocalypse 3, les sept phases de l'Église de Dieu, où Dieu représente comment son Église a changé à travers les âges pour en être aujourd'hui ou l'année. Je parle maintenant de l'Église de Dieu. Je ne parle pas des églises qui se prétendent ou qui se nomment chrétiennes. Apocalypse 2. Je vais seulement prendre, je dis, deux versets particuliers. Il y a sept églises. Chaque église a un ange au-dessus d'elle. Chaque église, c'est l'église de Dieu, a ses qualités et ses défauts. À chaque église, Dieu fait des promesses. Prenez le temps, Apocalypse 2, Apocalypse 3. À chaque église, Dieu fait des recommandations. À chaque église, Dieu dit, celui qui vaincra sera sauvé. Alors, déjà, voilà déjà une vérité fantastique. Pour être sauvé, quelle que soit l'église en question, l'église de Dieu, il faut que cette église puisse vaincre. Alors, si vous voulez, prenons dans les quelques instants qui me restent encore et voyons ce que Dieu dit en ce qui concerne les églises, les sept phases de l'Église de Dieu à l'époque des apôtres. Apocalypse 2, verset 4. Ici, il est question de l'église d'Éphèse, la première église. Dieu dit, tu es bien, il donne des détails, je ne vais pas entrer. Mais dit-il, tu as perdu quelque chose. C'est quoi? Qu'est-ce que l'église d'Éphèse a perdu? Qu'est-ce que nous avons perdu aujourd'hui, en d'une façon générale, même dans l'église de Dieu? Qu'est-ce que le monde a perdu? Et tu as perdu le premier amour. Vous savez, c'est profond ça. La plupart de nous, nous souffrons parce que nous avons perdu le premier amour. L'Église de Dieu, elle-même, aujourd'hui, a souffert et souffre encore parce qu'elle a perdu le premier amour. Elle avait beaucoup de qualités à l'époque. Regardez ce que le Christ dit. Tu as perdu le premier amour. Et ce que j'ai contre toi, c'est que dit-il, tu as abandonné ton premier amour. Réfléchissez. Comme j'ai dit, chaque église reçoit une recommandation, des récompenses. Les récompenses sont toujours les mêmes. Les recommandations aussi sont les mêmes. Tu devras sortir du péché, tu devras changer, tu devras améliorer et tu devras vaincre. Donc, honnêtement, en ce qui concerne vous-même. Faites-vous partie de cette église d'Éphèse dans votre cœur? Avez-vous perdu le premier amour? Y a-t-il d'autres choses, d'autres personnes, d'autres choses qui viennent dans votre vie? J'ai vu tellement de gens, vous savez, dans mon ministère. Des gens fantastiques, des gens formidables. Ils sont convertis jusqu'au moment où quelque chose arrive dans leur vie, qui les sépare de quelque chose qu'ils aiment. Alors, ils deviennent des gens différents. Donc, ils perdent leur premier amour. Ce n'est pas ça que le Christ demande. Si vous êtes chrétien, avant tout, le Christ occupe votre cœur. Si vous êtes chrétien, avant tout, vous approchez de votre prochain d'une façon honnête, sans accuser, sans blâmer. Et toujours, s'il le faut, tourner le joue. Et toujours, s'il le faut, dire « j'ai tort ». Autrement dit, comme le Christ a dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ailleurs, comme il a dit, vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous n'aimez pas votre prochain. Enfin, ça c'est un grand sujet. Prenons la deuxième phase de l'Église. Apocalypse 2, verset 10. La question de l'Église de Smyrna. L'Église de Smyrna reçoit l'ordre de ne pas craindre les hommes. Intéressant. Mais encore, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas mon sujet. J'entrerai plus tard. Il dit, voici dit-il, verset 10, Apocalypse 2, voici dit-il, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Donc, la persécution est toujours là. Afin que, dit-il, vous soyez éprouvés. Question d'éprouver. Parfois, nous souffrons, nous sommes éprouvés, et c'est bon pour nous. Nous avançons, nous croissons. Afin que, dit-il, vous soyez éprouvés, et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Ça, c'était dans l'histoire, je passe. La tribulation est toujours là, mais il dit, qu'est-ce qu'il donne comme recommandation? Sois fidèle, jusqu'à quand? Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, la plupart d'entre nous, nous sommes fidèles jusqu'au moment où les choses changent dans notre vie. Le Christ n'a pas dit ça, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Voilà. C'est là où beaucoup d'entre nous faiblissons ou faiblissent. Nous ne sommes pas fidèles jusqu'à la mort. Écoutez, mes frères et mes sœurs, je vais m'arrêter ici parce que je suis loin de terminer ce sujet. Je continuerai la prochaine fois. Mais rappelez-vous une chose. Dieu est fidèle. Dieu est toujours là pour nous aider. Dieu ne va jamais nous abandonner. Il n'a pas abandonné les Israélites en Égypte. Il n'a pas abandonné les apôtres du Christ. Il n'a pas abandonné le Christ, bien que le Christ eût souffert. Dieu ne va jamais vous abandonner. Chaque jour, lorsque vous dites que ton règne vienne, dites-lui merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu donnes chaque jour. Pardonne mon ingratitude. Pardonne cette nature charnelle à laquelle moi, comme nous tous, nous nous soumettons souvent. Voyez-vous, si vous avez cette détermination, vous verrez que chaque recommandation que Dieu donne à chaque phase de son Église, dans Apocalypse 2 et 3, nous est utile. Donc, je vais continuer la prochaine fois ce sujet. J'ai dit quelques mots sur l'Église d'Éphèse, l'Église de Smyrne, de Smyrna, et je continuerai la prochaine fois avec l'Église de Pergame. Et je vais continuer avec le sujet que ton règne vienne. Entre-temps, soyez courageux et soyez heureux. Entre-temps, soyez optimistes. Entre-temps, soyez plein de force pour encourager les autres. Les gens ont besoin de vous. Les gens ont besoin de vos encouragements. Les gens ont besoin de vos sourires réels. Les gens ont besoin de votre caractère chrétien. Donc, lorsque vous dites que ton règne vienne, en quelque sorte, vous demandez à Dieu, « Dieu, donne-moi la force pour que je puisse continuer à être chrétien, à avancer dans le christianisme véritable, à être un jour dans ton royaume. »